travaille dans un service de pédopsychiatrie en France. Et du coup, l'idée, c'est de témoigner un petit peu de la réalité du service hospitalier dans lequel je travaille en lien avec le Covid et puis plus largement la connaissance que j'ai du milieu psychiatrique dans les services de psychiatrie adulte aussi sur les écoutes des collègues qui travaillent dans ces milieux-là. Du coup, nous, globalement, la réorganisation là, des missions, la priorité qui est faite, elle est sur éviter que les jeunes dont on accompagne au quotidien viennent emboliser les services des urgences pédiatriques. Ça, c'est la mission qui nous est allouée sur la période du Covid pour permettre aux urgences somatiques de s'occuper plutôt des cas avérés de Covid plutôt que d'être pris par des situations de pédopsychiatrie, par exemple. Donc ça, c'est vraiment l'axe prioritaire qui nous est demandé. Donc globalement, toutes les consultations en CNP et puis les soins en hôpital du jour et en CATTP se sont arrêtées, avec juste le maintien pour les situations les plus graves ou pour les enfants ou les adolescents les plus fragiles de soins, donc en individuel dans les services. Il n'y a plus du tout d'atelier collectif. Au niveau des consultations, voilà, on accueille vraiment les jeunes qui vont le plus mal. Donc quand je dis le plus mal, c'est des jeunes qui ont des troubles psychotiques graves, qui sont sur des registres délirants importants ou qui ont dernièrement fait des tentatives de suicide et qu'on peut pas du tout se permettre de faire patienter le temps du confinement là pour reprendre les soins à un autre moment ou à une période plus tard. Voilà, puis l'accompagnement des familles aussi. Donc on est pas mal, on a pas mal réorganisé le travail du côté d'appels téléphoniques à la fois auprès des patients, des enfants, des adolescents et puis de leurs familles, de leurs parents ou des familles d'accueil qui s'occupent d'eux dans le cadre de la protection de l'enfance, notamment, même des foyers aussi. On a pas mal de liens avec les professionnels du secteur socio-éducatif qui eux aussi sont assez en peine pour à la fois occuper les enfants, pour accompagner les enfants, parce qu'il y a toute la question des enfants placés, par exemple, la question du lien avec leur famille, elle est momentanément du coup interrompue. Donc moi, j'ai pas mal d'enfants, par exemple, en consultation téléphonique qui viennent témoigner de ça, sur leurs inquiétudes pour leurs parents, sur les risques liés au Covid, et puis des enfants qui sont aussi exposés aux informations télévisuelles et médiatiques qui du coup rapportent un peu quotidiennement l'évolution de l'épidémie. Donc à la fois la question de la mort qui arrive pas mal dans les échanges, la question de l'angoisse, et puis des adolescents aussi qui perçoivent assez bien que les adultes qui les entourent dans les questions que eux posent et la manière dont les adultes peuvent répondre à ces mêmes questions, les réponses qu'ils peuvent apporter à leurs questions, elles changent de jour en jour, parce que je prends l'exemple par exemple du rapport à la mort et qui dans la population générale peut être touché, est-ce que les jeunes peuvent être touchés, etc. Voilà, le décès qui a été très médiatisé de l'adolescente de 16 ans, là, par exemple, qui est voilà, dramatique, évidemment, sur le plan individuel. Néanmoins, dans l'écho médiatique que ça a trouvé, les jeunes, ils se sont tout de suite emparés de ça. Moi, par exemple, dans les consultations, il y a au moins 3-4 jeunes qui m'en ont parlé hier sur les différentes consultations que j'ai eues dans la journée par téléphone. Voilà, par exemple, ça, c'est à titre d'exemple. Après, au niveau de nous, de l'organisation, d'équipe, on a assez, enfin au début du coup entre l'annonce du confinement et puis des mesures de restriction des circulations, la fermeture des écoles, le lundi suivant nous on nous a annoncé que du coup les centres de soins devaient fermer, sauf pour l'accueil vraiment exceptionnel des situations graves ou urgentes ou cliniquement en tout cas inquiétantes, dont on ne pouvait pas se permettre de mettre entre parenthèses les soins, je veux dire ça comme ça. Du coup, au début, on était tous un peu réunis au niveau des équipes, et puis assez rapidement, il y a une organisation interne là pour que les professionnels soient à peu près 2-3 par centre de soins. Alors c'est plutôt 4-5 hein, pour le moment, mais l'idée c'est de pouvoir quand même réduire les effectifs, avec l'idée peut-être de fermer d'autres centres de soins et puis de réunir vraiment de manière assez restreinte les centres de soins ouverts. Pour les accueils des jeunes, du public, et puis maintenir le lien téléphonique avec du coup la possibilité de faire les consultations à partir de chez nous, pas sur un mode de télétravail, mais quelque chose qui s'y apparente pour quand même pouvoir assurer le lien avec les patients. Moi, ce qui est un peu compliqué là, par exemple, c'est que sur des échanges que je peux avoir avec d'autres collègues, il y aura un intérêt, par exemple, à être suffisamment équipé, par exemple, en matériel audio-vidéo pour permettre des consultations, par exemple, avec la question du visuel, qui serait assez intéressante, je pense, sur notamment l'accompagnement des tout-petits ou des jeunes enfants. Et que c'est ça, pour le moment, on est à peu près un ordinateur par centre de soins, qui sont pas forcément équipés par les logiciels. Donc ça, on est un peu en train de se débrouiller, là, mais ça fait déjà 15 jours que quand même le confinement a commencé. Donc là, on est un peu en train d'essayer de voir comment on peut s'organiser pour avoir du matériel supplémentaire. Et puis, alors ça, c'est par rapport à l'aspect un peu soins à distance, je veux dire ça comme ça. Et puis sur l'aspect concret des choses, quand on accueille des jeunes en soins, quand même en présentiel, on a assez peu de matériel de protection quand même, hein. Les blouses sont arrivées avant-hier, je crois. On a du gel hydroalcoolique, ça, bon, ça c'est sûr, mais on n'a pas du tout de masque de protection, sauf des masques chirurgicaux. Mais par exemple, pour des visites à domicile qu'on continue à faire dans des familles qui sont où un des parents, par exemple, est malade, ou un de la fratrie est malade, avec une grande chance que ce soit quand même le Covid, on n'a pas du tout de masque de protection suffisant. Donc on se débrouille pour faire des masques en tissu, des choses comme ça qui permettent de pallier à quand même l'absence de protection suffisante dans les services, et d'autant plus dans les services de psychiatrie, parce que ça, je pense que ça a été assez peu anticipé. Les masques, déjà, ils sont en sous-nombre en France, mais ils ont quand même été principalement priorisés pour les services de somatique, hein, ce qui peut s'entendre. Néanmoins, les services de psychiatrie sont quand même confrontés à l'accueil et la continuité de l'accueil des patients malades, notamment en psychiatrie adulte sur les services d'hospitalisation. Et donc là, ce qui se présente, par exemple pour les services de psychiatrie adulte, c'est la mise en quinzaine des gens dans leur chambre en confinement. Par exemple, sur tous les premiers accueils là, qui arrivent maintenant sur le centre hospitalier où je travaille, les personnes sont accueillies à l'hôpital dans le cadre voilà, des compensations, de diverses raisons cliniques qui les amènent à devoir être hospitalisés. Et les gens ont l'obligation de rester en chambre en fait 24 heures sur 24. Donc il n'y a plus d'atelier collectif. Le personnel soignant va dans les chambres, mais les patients n'ont pas le droit de sortir de leur chambre. Et ça, les recommandations, c'est pour 15 jours. Donc voilà, il faut quand même imaginer des personnes qui présentent des symptômes délirants ou des moments d'agitation, qui sont en phase maniaque, etc. Par exemple, qui ont l'obligation de rester en chambre. Avec quand même ce que ça comporte pour eux de capacité à prendre sur eux là où ils sont dans un grand moment de fragilité. Donc ça les équipes soignantes, par exemple, elles sont assez inquiètes de comment elles vont pouvoir faire respecter ce cadre-là au niveau des unités de soins sans être confrontées à la question de la violence qui quand même circule pas mal dans l'esprit des soignants. Voilà, ça c'est quand même la donnée principale de la psy adulte en ce moment. Voilà, nos équipes sur le plan administratif, elles sont hyper mobilisées, parce que je pense que les recommandations, elles changent de manière quotidienne. Donc on a par exemple, pour vous donner un exemple, il y a quelques jours, l'idée c'était d'avoir deux chambres dans les services de psy adulte par unité qui était réservée aux patients qui présentaient un syndrome de Covid. Et puis là, l'idée, en fait, ça a changé cette semaine, c'est de créer une unité spéciale Covid en interne de l'hôpital. Mais c'est voilà, c'est des choses les recommandations, elles tombent de jour en jour. Les personnels administratifs, je pense qu'ils font un travail colossal en termes de livraison, par exemple, d'attestation pour circuler, d'autorisation de sortie en VAD, d'organisation du plan blanc au niveau des services hospitaliers français. Donc tout le monde est, je pense, dans une certaine tension, enfin c'est certain, dans une certaine tension. Et puis ça met aussi en part, enfin il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'à la fois les services extra-hospitaliers, les CMP, les hôpitaux de jour, les CATTP par exemple, l'activité est extrêmement réduite, les personnels soignants sont invités à plutôt rester chez eux ou en tout cas à s'organiser au niveau des équipes pour qu'il y ait un service vraiment minimum et un croisement minimal des équipes. Et puis en intra-hospitalier, là, la pression, elle est toujours aussi forte, avec quand même, depuis 2 ans en France, des revendications qui étaient assez criantes sur l'état de la psychiatrie, des services de psychiatrie adulte, d'hospitalisation, les moyens manquants qui étaient criants sur l'ensemble des services de psychiatrie, de pédopsychiatrie en France. Et puis là, du coup, se rajoute à déjà un manque de lits assez courant et une suroccupation de l'hôpital, la question du Covid qui vient du coup se rajouter à la pression et puis à la demande incessante qui est faite aux équipes et aux professionnels de santé pour gérer de nouveau voilà, cette crise sanitaire qui certes n'était pas prévue, mais qui vient d'autant plus déborder les professionnels de santé. Et je pense à la question des urgences sur les services hospitaliers somatiques qui sont confrontés à exactement la même chose avec ce qui a été décrit depuis un an là sur l'état des services. Voilà ce dont je peux dire. Et puis, peut-être le point aussi qui concerne la pédopsychiatrie, c'est qu'on a un certain nombre d'enfants qui relèvent de la protection de l'enfance, qu'on accompagne dans le cadre du soin et des missions thérapeutiques qu'on a auprès de ces enfants ou de ces adolescents-là. Et puis, dans le cadre du confinement, il y a un certain nombre d'enfants qui ont été remis à leur famille, pour lesquels voilà, la question du placement n'existe plus en ce moment, voilà, quelques quand même inquiétudes au niveau des équipes de soins et puis des équipes éducatives sur les conséquences des confinements quand les éducateurs ne peuvent pas forcément se déplacer à domicile pour accompagner les familles dans les tensions qui existent et qui ont justifié les placements, par exemple. Et puis aussi pour des situations déjà plus ordinaires, on peut penser qu'à l'action du confinement, tout le monde n'a pas 150 mètres carrés avec un grand jardin pour circuler et vivre le confinement tout à fait correctement en fonction du milieu socio-économique dans lequel on vit, et que là-dessus, il y a quand même des grandes disparités sur la manière dont les familles vont pouvoir accompagner leurs enfants et puis vivre aussi cette période. Voilà, par exemple, la première semaine, nous, ça c'est pas trop revenu dans les échanges avec les familles, les parents et les enfants. Mais là, par exemple, depuis quelques jours, la question de parents qui commencent à dire que c'est difficile la promiscuité, qui commencent à dire que voilà, les relations se tendent avec leurs adolescents, par exemple, qui ont besoin de sortir ou de s'évacuer, ou de s'extraire un peu quand même du milieu familial, voilà, on voit ça quand même assez monter. Et puis on est quand même avec un certain nombre de publics qui ont des vraies difficultés de séparation, par exemple au sein de leur famille, de distanciation, de pouvoir aussi respecter l'intimité ou le. Voilà, je veux dire ça comme ça, mais l'espace psychique de l'autre. Et qu'on sait bien que la maladie mentale ou les fragilités psychiques, elles peuvent venir attaquer comme ça les espaces de chacun. Et que le confinement, il va produire aussi bah, le renforcement des crispations et des tensions. Du coup, il y a quand même la question de comment nous, en tant que professionnels de santé, et puis professionnels du champ éducatif et sanitaire, enfin, et médico-social, on accompagne les familles à distance pour assurer quand même notre rôle d'agent un peu séparateur ou d'accompagner les familles à pouvoir trouver des solutions et des petits bricolages pour que les personnes puissent quand même supporter, je veux dire ça comme ça, la grande promiscuité où, par exemple, moi j'ai des adolescents là qui témoignent qu'ils ont qu'une envie, c'est de retourner à l'internat ou
Ils
parce que
n'ont
c'est
pas pu.
compliqué le quotidien à domicile. Voilà.
Ok. Bah écoute, je te remercie de ce témoignage. Et bon, ça prouve, enfin, en tout cas, on le savait, mais ça témoigne du fait que le Covid amplifie en fait la crise dans laquelle est déjà le secteur de la psy en France.
Oui, tout à fait. Ouais.
Eh bien, merci pour ce témoignage.